RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Julien et bonjour à tous.
Dans ce journal, l'armée israélienne a frappé à de multiples reprises cette nuit des sites militaires et nucléaires iraniens.
Des frappes qui se poursuivent ce matin. L'objectif est clair, empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Selon Israël, l'Iran s'approche du point de non-retour vers la bombe atomique. Nous sommes à Jérusalem et à Téhéran dans ce journal avec nos correspondants.
Et après ce journal, le géopolitologue Frédéric Ancel, spécialiste du Proche-Orient, sera notre invité. À la une également, l'Inde en deuil.
Au lendemain du crash d'un Boeing d'Air India, l'identification des victimes est toujours en cours. Narendra Modi, le Premier ministre indien, s'est rendu sur place ce matin. Nous serons aussi à Nice à la conférence de l'ONU sur les océans qui touche à sa fin. Et puis quand l'état des routes à Douala contraint la Fédération camerounaise de cyclisme à annuler le critérium urbain prévu dans la capitale économique. Reportage à Douala à la fin de ce journal.
Israël a bombardé cette nuit plusieurs sites militaires et nucléaires iraniens.
Il y a des bombardements massifs, des dizaines de frappes sur des installations cruciales pour le régime iranien, notamment le centre d'enrichissement d'uranium de Natanz. Visé plusieurs fois, ces bombardements qui semblent se poursuivre ce matin, Israël ne cache pas son objectif. Écoutez cette nuit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Moments ago, Israel launched...
Il y a quelques instants, Israël a lancé une opération militaire ciblée pour contrecarrer la menace que l'Iran fait planer sur l'existence même d'Israël. Cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour éliminer cette menace. Depuis des décennies, les tyrans de Téhéran appellent ouvertement à la destruction d'Israël. Si on ne l'empêche pas, l'Iran pourrait produire une arme nucléaire en très peu de temps, peut-être un an ou même dans quelques mois. C'est un danger clair et existentiel pour Israël.
Benjamin Netanyahou qui s'exprimait cette nuit. Sami Boukhelifa, vous êtes en direct avec nous de Jérusalem. L'objectif est donc clair et on l'entendait. Israël ne compte pas en rester là.
C'est une déclaration de guerre. Cette nuit, Israël envoie ses chasseurs bombardiers en Iran. 5 vagues successives de frappes aériennes massives et l'armée annonce qu'elles se poursuivent. 3 types de cibles. D'abord, le programme nucléaire iranien. Des raids sur l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. L'Agence internationale de l'énergie atomique surveille la situation de près. Aucune augmentation des niveaux de radiation n'a été observée pour le moment, indique l'AIEA. Deuxième cible, des usines de fabrication de missiles balistiques. Ce sont ces missiles supersoniques et de longue portée qui peuvent atteindre le territoire israélien en une dizaine de minutes, comme en avril et en octobre 2024. Selon les renseignements américains, avant les bombardements de cette nuit, l'Iran en avait 2000 à disposition avec des ogives de près d'une tonne. Et enfin, troisième et dernière cible, au moins 2 scientifiques de haut niveau et surtout le haut commandant militaire de la République islamique. Les médias israéliens rapportent la mort du numéro 1 des gardiens de la révolution, Hossein Salami. L'Iran promet une réponse forte, une punition sévère selon le guide suprême Ali Khamenei. Israël est depuis le milieu de la nuit en état d'urgence. Les sirènes d'alerte préventive ont résonné vers 3h du matin.
Et cette attaque, Samy, elle intervient alors qu'un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien doit avoir lieu dimanche.
Le président Donald Trump dit espérer toujours la tenue de ces discussions. Il affirme avoir été prévenu aussi à l'avance de ces frappes aériennes israéliennes et reste disposé à défendre son allié israélien en cas de riposte iranienne. L'Iran vient de lancer une contre-attaque à l'aide de drones. Des images de ces drones survolant l'Irak et en route vers Israël sont partagées sur les réseaux sociaux. Israël affirme tenter de les intercepter.
Sami Boukhelifa en direct avec nous de Jérusalem. Merci. Et on parlait des États-Unis. Côté américain, on assure ne pas avoir fourni d'aide à Israël qui a lancé unilatéralement ses frappes pour se défendre, fait savoir Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. On prend à présent la direction de l'Iran. Bonjour Siavosh Ghazi.
Bonjour.
Correspondant d'RFI à Téhéran, Siavosh, le régime iranien a donc lancé une première riposte après ses frappes israéliennes.
Alors, cela n'a pas été confirmé officiellement par les autorités iraniennes, mais certains médias ont montré des vidéos de drones dans le ciel irakien, donc allant vers Israël. Est-ce qu'on cela veut dire qu'on répète le même scénario qu'il y a que lors de la première opération contre Israël, lorsque une vague de drones avait été lancée par l'Iran donc vers Israël et qui avait été interceptée, et ensuite une seconde vague donc de missiles balistiques avaient été lancés contre l'État hébreu. On ne sait pas encore ici si il n'y a pas de confirmation, mais le numéro 2 des gardiens de la Révolution a affirmé que tout était en préparation pour répondre durement à Israël, et donc, comme l'a dit le guide suprême iranien, de répondre donc entre guillemets aux crimes commis par l'État hébreu avec ces frappes qui ont touché de nombreux sites à travers le pays.
Merci à Vosh Ghazi, merci en direct avec nous de Téhéran. De nombreuses réactions internationales depuis ce matin. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté Israël et l'Iran à faire preuve de la plus grande retenue. Le Japon condamne fermement, lui, les frappes israéliennes contre l'Iran. Le pays membre du G7 dénonce une escalade et appelle lui aussi à la retenue.
Et on revient sur la situation entre l'Iran et Israël dans moins d'un quart d'heure après ce journal avec le chercheur Frédéric Ancel. Vous suivez évidemment la situation avec le live que vous retrouvez sur RFI.fr. Direction l'Inde à présent, Jeanne. C'est tout un pays qui est en deuil après le crash survenu à Ahmedabad.
Et un Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Air India. Il s'est écrasé hier dans une zone densément peuplée d'Ahmedabad. Il n'y a qu'un seul survivant. Au moins 265 morts, dont plus d'une vingtaine de personnes tuées alors qu'elles se trouvaient au sol sur le site du crash, survenu peu après le décollage. On est en direct avec Léa Ojal, correspondante d'RFI en Inde. Le premier ministre indien, Léa, s'est rendu ce matin sur le site du crash.
Et oui, tout à fait. Et sur place, il reste encore de nombreux débris. L'aile de l'avion est toujours là, calcinée. Les familles en deuil pleurent dans les rues. Toute la nuit, les secours indiens ont fouillé les débris fumants, aidés de chiens de recherche. Ils veulent à tout prix comprendre ce qui a provoqué l'explosion du Boeing 787 Dreamliner d'Air India. L'émotion ici est immense. Le gouvernement du Gujarat appelle les familles à fournir des échantillons d'ADN pour identifier les victimes. Et vous l'avez dit, le premier ministre indien Narendra Modi est arrivé sur place ce matin. Et sur les images, on le voit inspecter les débris. Un peu plus tard, il a été rejoint sur le site du crash par le PDG d'Air India. Le ministre indien de l'aviation civile annonce l'ouverture d'une enquête officielle sur le crash et un comité de haut niveau va être mis en place. Il réunira des experts de plusieurs disciplines pour analyser les causes de l'accident avec deux objectifs, renforcer la sécurité aérienne et éviter que ce type de drame ne se reproduise. Ils seront accompagnés d'experts britanniques et américains. Mais à ce stade, aucune défaillance de Boeing n'est confirmée. Une image bien plus complète apparaîtra une fois que les boîtes noires, ces enregistreurs électroniques contenant les données essentielles du vol, auront été récupérées.
Léa Ojal, merci. En direct de New Delhi, à noter que l'Agence américaine de sécurité des transports va envoyer en Inde une équipe d'enquêteurs pour prêter assistance à leurs homologues indiens.
Ce sera aujourd'hui, elle est espérée, en fin d'après-midi, à la conférence de l'ONU sur les océans.
Oui, la déclaration finale de ce grand rendez-vous sur l'état de nos océans, elle doit être adoptée par les représentants des 153 États membres de l'ONU qui ont fait le déplacement à Nice. Jeanne Richard, vous suivez en direct de Nice le rendez-vous. Certains points les plus importants de cette déclaration finale sont déjà fixés. Jeanne, le rendez-vous acte d'une avancée majeure pour l'environnement.
Oui, la France s'était fixée un objectif principal. S'assurer qu'au moins 60 États ratifient le traité sur la haute mer, la condition sine qua non pour qu'il puisse entrer en vigueur. On n'y est pas tout à fait, mais les diplomates français assurent que ce cap des 60 sera atteint dans les semaines qui viennent. La Chine, notamment, a promis au chef de l'État qu'elle en serait. Ce traité vise à mieux protéger les eaux internationales au-delà des zones exclusives des États, soit une surface qui couvre la moitié de la planète et qui n'était pas du tout régulée. Fini le Far West, donc, des premières aires protégées dans ces eaux internationales vont pouvoir être créées et une première COP dédiée à la protection de l'océan devrait même être organisée à l'automne 2026. Cette semaine, il y a aussi eu de timides avancées contre la pollution plastique ou pour la protection des abysses. Plusieurs États ont annoncé de nouvelles aires marines protégées. Tout n'a pas été parfait. Les annonces françaises sont jugées creuses à plusieurs égards par les ONG. Mais dans un contexte géopolitique aussi tendu, réussir à réunir 64 chefs d'État et de gouvernement autour de la protection de l'océan, c'est tout de même une bonne bonne nouvelle pour le multilatéralisme.
Jeanne Richard, en direct de Nice pour la fin de cette conférence de l'ONU sur les océans. Place à présent aux États-Unis où l'inquiétude reste forte au sein de la communauté latino-américaine, dans les rues de Los Angeles, mais également dans les zones rurales où les travailleurs agricoles sont également visés par les rafles de l'administration fédérale. La tension à son comble également sur le terrain politique. Un sénateur démocrate a ainsi été expulsé de force d'une conférence de presse de la secrétaire à la sécurité intérieure à Los Angeles. Récit avec Loubna Naki.
Les images de l'incident ont tout de suite fait le tour des médias américains, déclenchant une nouvelle passe d'armes entre républicains et démocrates. Sur la vidéo, alors que Christine Home, la secrétaire à la sécurité intérieure, prend la parole pour défendre les arrestations massives de sans-papiers, on voit le sénateur Alex Padilla l'interrompre. Je suis le sénateur Alex Padilla et j'ai des questions pour la secrétaire, dit-il, avant d'être immédiatement poussé dehors par des agents, placé au sol puis menotté. Un peu plus tard, le sénateur de Californie s'est exprimé devant les caméras.
Si c'est comme ça que l'administration répond aux questions d'un sénateur, on ne peut qu'imaginer comment il traite les travailleurs sans papier dans les fermes, dans les cuisines, partout à travers Los Angeles et à travers la Californie.
Christine Home a expliqué que les agents avaient agi ainsi pensant qu'il s'agissait d'un perturbateur. Elle estime que le sénateur a eu, je cite, un comportement indigne de son statut et précise tout de même qu'elle s'est entretenue avec lui quelques minutes après la conférence de presse. De leur côté, les démocrates estiment que la façon avec laquelle leur collègue a été traité, je cite, « scandaleuse ». Certains appellent même à la démission de la secrétaire à la sécurité intérieure. Loubna Naki, New York, RFI.
Enfin au Cameroun, quand l'état des routes de Douala contraint la Fédération camerounaise de cyclisme à annuler le critérium urbain.
Un incident qui vient rappeler un problème décrié au quotidien par la population. Reportage de Richard Onanena.
Bon, je pense que l'état des routes au Cameroun est suffisamment désastreux. Et le dire, c'est comme enfoncer une porte ouverte parce qu'on sait que c'est vieux comme le monde.
Christian Chapmi, coordinateur de la rédaction d'un quotidien de la capitale, n'est pas surpris par l'annulation cette semaine d'une étape du Tour cycliste du Cameroun à cause de l'état des routes dans la capitale économique.
Pour une capitale économique comme Douala, voir qu'on a annulé le tour et qu'on se contente de faire des allers et retours, des allers et venues sur un petit tronçon pour valider l'étape par l'Union cycliste internationale, c'est déplorable et ça montre à quel point nous avons touché le fond.
Les images de l'étape du tour annulée ont été relayées par de nombreux médias. L'état de délabrement du réseau routier camerounais est régulièrement pointé du doigt par la population. Trajet rallongé, véhicules abîmés. Pour ces deux habitants de Yaoundé, la situation est de la responsabilité du gouvernement.
Il y a beaucoup de négligence à ce niveau-là sur la route au Cameroun. Tu achètes une voiture, tu as 3 semaines, tu vas au garage. Si ta voiture elle est basse, on se plaint tous les jours, mais rien ne change. Les routes sont impraticables.
C'est assez déplorable de voir l'état de certaines routes, même les grands axes routiers du centre-ville. Je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités en intervenant là.
Plusieurs projets de réhabilitation de la voirie sont annoncés à Douala. À Yaoundé, la mairie de la ville vient de lancer le projet Yaoundé Cœur de Ville, une initiative qui vise à réhabiliter plusieurs axes routiers de la capitale camerounaise. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et le journal signé Jeanne Bartoli. Merci Jeanne. Dans quelques minutes, notre invité Frédéric Ancel pour revenir sur la situation entre l'Iran et Israël ce matin. Mais tout de suite, les sports. Avec vous Antoine Grenier, le football, les équipes arrivent une à une aux États-Unis pour préparer la Coupe du Monde des clubs.
Elles seront 32 en tout à se disputer le titre. 11 villes américaines accueilleront les engagés, parmi lesquelles des équipes sud-américaines comme Boca Juniors, l'équipe argentine qui affrontera le Benfica Lisbonne la semaine prochaine. Un Boca en difficulté cette saison mais qui espère se relancer grâce à ce mondial des clubs. Un défi pour l'équipe aussi Copa Libertadores et son capitaine Edinson Cavani, impatient de débuter la compétition.
La réalité, c'est que cette compétition suscite de l'enthousiasme. Nous savons que nous représentons un club de classe mondiale et cela ajoute quelque chose. Nous devons assumer nos responsabilités et profiter de ce tournoi qui est disputé pour la première fois. Nous avons hâte d'y être. Nous avons travaillé dur pour aller loin dans cette compétition.
Un mondial des clubs qui s'ouvrira dans la nuit de samedi à dimanche avec un match entre l'Inter Miami de Léo Messi et l'Al-Ahly du Caire.
En judo, premier grand rendez-vous depuis les JO de Paris.
Les mondiaux débutent ce vendredi à Budapest. L'équipe de France aligne 17 judokas, mais sans ses superstars, ni Teddy Riner, ni Clarisse Segbeninou n'ont fait le déplacement. Sur le tatami, la moisson pourrait débuter dès aujourd'hui avec Shirin Boukli, qui fait partie des favorites en moins de 48 kilos, et Luca Meredze en moins de 60. Le double médaillé olympique en individuel rêve d'un titre mondial qui lui offrirait et son cadre dans la galerie des champions de l'INSEP.
Je m'entraîne tellement dur et puis ça me tient tellement à cœur de briller et puis ramener ce titre à la maison. C'est mon rêve. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'INSEP et quand j'avais mis les pieds sur les tatamis pour la première fois, j'avais eu les cadres de tous les champions du monde, tous les champions olympiques. Et puis ça m'a toujours inspiré en fait. Je suis champion d'Europe, j'étais médaillé deux fois aux Jeux, mais ça ne suffit pas pour avoir son cadre. Donc j'espère remplir mon palmarès et puis rajouter cette case.
Luca Meredze au micro de Radio France, le vice-champion olympique de Paris qui a 29 ans n'a toujours pas mis le pied sur un podium mondial.
Pour finir en athlétisme, pas de nouveau record du monde pour Armand Duplantis.
Le perchiste suédois s'est arrêté à 6,15 m lors du concours du meeting d'Oslo, loin des 6,27 m de son record du monde. Mais le public norvégien s'est consolé grâce à l'enfant du pays, Karsten Warholm. Il a conclu idéalement le meeting en réalisant la meilleure performance de tous les temps sur le 300 mètres haies, une distance non olympique, en 32 secondes 67.
L'athlétisme dont la nouvelle compétition, le Grand Slam Track, annule son dernier rendez-vous de l'année.
Le meeting de Los Angeles qui devait conclure cette première saison du circuit lancé par la légende Michael Johnson a été annulé. Après les compétitions à Kingston en avril, Miami début mai, puis Philadelphie fin mai, le Grand Slam Track n'ira donc pas en Californie les 28 et 29 juin prochains.
Merci Antoine Grenier.
RFI Matin.
Et bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie, vous revenez sur ce procès aux États-Unis qui repose la question du rapport entre l'intelligence artificielle et les droits d'auteur. Disney et Universal attaquent Midjourney en justice.
Oui, deux géants d'Hollywood unissent leurs forces pour défendre leur propriété, en l'occurrence leur propriété intellectuelle. Disney, ce n'est pas seulement Mickey et les princesses, c'est aussi Star Wars, les super-héros Marvel et j'en passe. Universal, ce sont des milliers de films qui ont contribué à façonner la pop culture américaine. Face à eux, Midjourney, une IA générative capable de fabriquer des images sur demande, une application que les deux entreprises accusent d'être un puissant fond de plagiat, autrement dit d'avoir pillé leur création pour s'entraîner. Les deux studios n'ont eu aucun mal à trouver des exemples d'images créées par Midjourney représentant Yoda, Shrek, Iron Man ou d'autres personnages sous licence. Un des grands patrons de Disney résume la situation. Nous croyons dans le potentiel de l'IA, mais le piratage reste du piratage, même quand il est réalisé par une intelligence artificielle.
Et qu'est-ce que ce procès pourrait changer ?
Alors beaucoup de choses. D'abord parce que c'est le premier du genre à cette échelle, et puis il pose la question du cadre juridique de l'IA. L'administration Trump ayant refusé de légiférer pour ne pas entraver, dit-elle, l'avance technologique des États-Unis, le secteur évolue dans le flou. Avec ce procès, la justice pourrait être amenée à cadrer les choses, à forcer les entreprises du secteur à payer les détenteurs des droits des millions de contenus en ligne qu'ils ont utilisés pour entraîner leurs IA.
En même temps, les géants d'Hollywood utilisent déjà l'IA dans leur production.
Oui, c'est un peu le paradoxe de la situation. D'un côté, il est tentant pour les studios de recourir à ces outils pour générer des effets spéciaux à moindre coût, changer une ligne de dialogue en post-production sans avoir à retourner une scène entière par exemple. Mais en même temps, ils sentent aussi la menace. Il y a quelques mois a même circulé sur Internet un court-métrage Star Wars d'une dizaine de minutes entièrement réalisé sur IA par un fan, évidemment sans l'autorisation de Disney.
Are you the Jedi?
Alors c'est très mauvais, je vous rassure, pas encore de quoi tromper le public, mais pour combien de temps la question se pose, et les grands studios de cinéma ne sont pas les seuls concernés. La situation terrifie les plus petits artistes dont les œuvres ont été pillées sans vergogne, qui n'ont pas eux les moyens de se défendre. On peut aussi parler de la presse et des médias qui de plus en plus proposent à leurs lecteurs des résumés de leurs articles rédigés par l'IA. Problème, aux États-Unis, Google propose désormais un résumé des différents articles disponibles sur un sujet directement sur sa page d'accueil. Résultat, plus besoin de cliquer. Et les différents sites d'infos ont vu leur trafic et les revenus publicitaires qui allaient avec s'effondrer, alors que c'est toujours leur contenu, leur travail qui sert de base à l'IA de Google. Bref, le piratage reste du piratage.
Merci Nathanaël Vitran, à tout à l'heure. 8h19 à Paris, à quoi faut-il s'attendre désormais alors que cette nuit Israël a mené sur l'Iran des frappes d'une ampleur inédite, 200 avions de combat mobilisés, une centaine de cibles visées selon l'armée israélienne qui a touché notamment plusieurs sites nucléaires et militaires, tué des scientifiques et des cadres de l'armée et du régime. Des pilotes israéliens seraient encore en opération ce matin, l'ONU appelle à la retenue alors que la riposte iranienne semble avoir commencé avec une attaque de drones. Notre invité pour y voir plus clair. Bonjour Père de Jong.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, ancien colonel. On peut dire qu'on pouvait s'attendre à ce qui s'est passé cette nuit?
C'était prévisible, puisqu'en fait le président Trump a annoncé très clairement hier que les Israéliens allaient certainement attaquer des sites de, comment dire, des sites de retraitement de l'uranium. Donc en fait on le savait, puisque Netanyahou a prévenu le gouvernement américain, donc on était prévenu. Mais évidemment c'était un changement fondamental, parce que entre prévenir, entre menacer et le faire, il y a une énorme différence. Et on voit qu'aujourd'hui, très concrètement, Israël lance l'opération pour empêcher quelque part les Iraniens d'accéder au nucléaire militaire.
Et Israël dit avoir visé des dizaines de cibles militaires. On parle notamment du site d'enrichissement d'uranium de Natanz, visé plusieurs fois, mais aussi de frappes à Téhéran et dans le nord-ouest du pays. On peut déjà dire que cette ampleur de frappe est inédite. On peut aussi dire, vous le disiez, que l'Iran s'attendait à être frappé. Alors à quel point ces bombardements peuvent-ils avoir abîmé les capacités nucléaires du pays ?
Alors, tout ce qui est en surface, évidemment, a été détruit, ça c'est certain. Donc, la plupart des usines, des centrales qui existaient à l'extérieur sont bien sûr détruites. Par contre, on sait, par les rapports de l'AIEA, on sait que une partie, entre autres, à Kazan, on sait très bien qu'il y a, globalement, ils sont enterrés. Et qu'aujourd'hui, les centres de retraitement les plus performants sont à plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres sous terre. Donc là, bien évidemment, l'armement, les bombes ne détruisent pas intégralement ce genre de site. C'est le premier point. Le deuxième point, les Israéliens, ils savent très bien qu'aujourd'hui, les Iraniens ont acquis la compétence de façon générale. Donc on va rentrer dans une espèce de guerre d'attrition qui peut durer un certain temps. C'est ce genre de site, il faut le détruire régulièrement.
Et plusieurs scientifiques de premier plan du programme nucléaire iranien auraient été tués cette nuit. On voit aussi ces fortes explosions dans la capitale avec des morts civiles, un incendie au centre de commandement des gardiens de la Révolution. Leur chef, Hossein Salami, a été tué, le chef d'état-major de l'armée iranienne également. Le coût de ces frappes pour le régime est très élevé ce matin.
Ah oui, très élevé, parce qu'il se situe à trois niveaux. Premier niveau, d'abord, c'est Israël a réussi à altérer quelque part, en fait, la capacité de production du nucléaire militaire. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est évident. Le deuxième point, c'est qu'il y a une deuxième rafale de frappe, en fait, qui concernait le système sécuritaire iranien, principalement les gardiens de la Révolution, puisqu'en fait, le patron des gardiens de la Révolution, Hussein Salami, a été tué dans une des frappes, plus le chef d'état-major. Donc, en fait, ils ont étété littéralement le système de commandement iranien. Puis, troisième point, c'est psychologiquement, on voit qu'Israël n'hésite pas, on voit des vagues d'avions, 200 avions, c'est absolument considérable, sachant que l'Iran est à peu près à 1500 km d'Israël, donc c'est un pic des ravitaillements en vol, etc. Je veux dire, c'est qu'encore une fois, psychologiquement, Israël impose son tempo à la région.
Et la question que ça pose désormais, c'est évidemment d'abord celle de l'affaiblissement et les capacités de répondre pour l'Iran aujourd'hui. Le guide suprême Ali Khamenei affirme qu'Israël sera sévèrement puni, Téhéran dit avoir le droit légitime de répondre à cette attaque. Des drones semblent avoir été lancés vers Israël. Mais à quoi pourrait ressembler la riposte iranienne au vu des capacités du pays aujourd'hui ?
Encore une fois, à base de drones et de missiles, on sait que les Iraniens sont très performants dans le domaine des missiles. Autant ils ont une armée conventionnelle qui est quand même vieillissante, puisqu'on sait que leur armée de l'air, elle est complètement déclassée par rapport aux Israéliens, bien évidemment. Mais c'est une double structure opérationnelle, l'Iran. Une structure qui est liée à tout ce qui tire dans la profondeur, donc les missiles et les drones. Et puis deux, une capacité à déstabiliser l'ensemble de la région. Alors bien évidemment, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis sont en situation, je dirais, compliqué. Donc, encore une fois, les modes d'action iraniens peuvent être des modes d'action, je dirais, indirects, et ça, c'est relativement dangereux pour l'ensemble de la région, mais également pour les intérêts américains qui sont positionnés dans l'ensemble de la zone, au Qatar particulièrement, parce qu'au Qatar, vous avez une grande base qui s'appelle le CENTCOM, qui est le centre de commandement, et donc aujourd'hui, les Américains qui annoncent urbi et orbi qui ne sont pas concernés par ces tirs. Donc, encore une fois, on voit bien qu'il y a une inquiétude, parce que l'Iran pourrait se venger, entre guillemets, sur les forces, ou en tout cas sur les intérêts américains dans la zone.
Et on va reparler des États-Unis. J'aimerais d'abord qu'on essaye encore un peu d'y voir plus clair sur la suite des événements. Israël dit que c'est la première phase de l'opération, qu'elle durera autant de jours que nécessaire. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou cette nuit. L'armée israélienne peut aller encore plus loin, mais comment ?
Alors, elle peut aller plus loin dans la durée, surtout. On voit que c'est pas une frappe unique. C'est une frappe, c'est ce qu'on appelle une guerre d'attrition. C'est que les Israéliens savent très bien que s'ils veulent détruire définitivement, en tout cas, la capacité de production de l'armement nucléaire, qu'il faut impérativement renouveler les frappes. Donc, c'est ce qu'ils vont faire, j'imagine. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont évaluer, aujourd'hui, ils vont évaluer les dégâts qui ont été, imposés à l'Iran. Et à partir de là, ils vont renouveler. Aujourd'hui, ils sont très dominants, militairement. Et si les Américains leur donnent un coup de main dans le sens où, avec des informations, etc., que les Iraniens sont relativement limités. La seule possibilité d'avoir des alliances des Iraniens, c'est la Corée du Nord et la Russie. Mmh. Aujourd'hui, ces deux pays, et surtout la Russie, est occupée à faire autre chose. Donc, encore une fois, pour Israël, encore une fois, c'est vrai que les planètes étaient alignées. Entre la disparition des proxys, donc le Hamas et les Hezbollah, la faiblesse iranienne, etc., donc c'est vrai qu'il y avait une espèce de moment fatidique, d'autant qu'on sait que les Iraniens allaient produire, dans le court terme, allaient produire, l'armement nucléaire, et ça a été dit dans un rapport de la la semaine dernière.
Les planètes étaient alignées. Est-ce que c'est finalement, c'est d'abord une histoire de timing ou est-ce que la question du nucléaire est vraiment centrale dans cette riposte? On voit qu'hier, l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté une résolution qui condamne l'Iran et que Téhéran s'est dit déterminé à continuer son enrichissement d'uranium. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette opération israélienne? Est-ce que c'est d'abord une opportunité?
Non, je crois pas. Je pense que c'était le moment unique. Pourquoi? Parce qu'on sait que les Iraniens aujourd'hui savent retraiter l'uranium. Ils atteignent aujourd'hui des niveaux de qualité de l'uranium extrêmement importants, ce qui veut dire qu'ils savent produire une bombe assez rapidement. Ce qui veut dire que compte tenu des relations qui entre l'Iran et Israël, puisque l'Iran n'a jamais reconnu l'État d'Israël et annonce périodiquement son envie de détruire Israël, bon, Israël procède, et ça c'est le discours officiel des Israéliens, il procède aujourd'hui à des frappes préventives et surtout des frappes quasiment appelé civilisationnel. C'est qu'en fait, Israël se considère comme menacé dans son existence. Donc c'est vrai que c'est ça la logique israélienne, de détruire, de faire ces frappes préventives pour empêcher l'Iran d'accéder à cette destruction massive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, moi ce que je pense, c'est que les Iraniens ont la compétence maintenant. Donc ils vont pas supprimer la compétence, même si on sait que les Israéliens ont tué toute une série d'ingénieurs, mais n'empêche que la compétence existe. Donc ça veut dire que ça va se renouveler, et donc il y a une espèce d'escalade, de course à l'échalote, ou en tout cas de progression quelque part. Les uns et les autres voudront produire l'armement nucléaire et les autres voudront le détruire. Donc là, on est parti pour une période relativement instable au Moyen-Orient, au-delà du fait qu'on assiste depuis ce matin à une augmentation des coûts, du prix du baril, puisqu'il est quasiment à $70 le baril. Donc c'est vrai que ça va déstabiliser très concrètement la mécanique internationale liée à l'énergie.
Est-ce que ça remet en question, selon vous, de manière... Quand Donald Trump dit espérer que les négociations vont continuer, est-ce qu'on peut vraiment encore y croire sur le nucléaire iranien?
Ça paraît difficile parce qu'on partait sur un sixième round, comme on dit, et on sait que les cinq premiers n'étaient pas très, très flambants. Le deuxième point, c'est que c'est vrai que Trump nous a habitués à des déclarations un petit peu intempestives, mais en fait, il n'a pas beaucoup de résultats parce que c'est très compliqué. La situation internationale est totalement déstabilisée, et sur l'Iran et sur l'Iran, alors c'est vrai qu'ils espéraient avoir une espèce de neutralisation, mais même dans les termes de la négociation des Américains avec les Iraniens, les Américains exigeaient que très concrètement, les Iraniens arrêtent leur programme nucléaire. On savait déjà que les Iraniens allaient refuser. Donc encore une fois, c'est évident que je veux dire qu'il y avait des tensions. Alors je pense que les Iraniens vont maintenir une espèce de relation, je dirais, avec les Américains. Mais je veux dire que aujourd'hui la situation est complexe. Il y a une page qui s'est tournée. Et encore une fois, je connais pas l'avenir, mais regardons et on va voir ce qui va se passer. Mais très concrètement, je pense que les Américains sont dans une situation d'arbitre dans la zone.
Merci Père de Jong, ancien colonel des troupes de marine et vice-président de l'Institut de formation Témis, auteur aussi de Agir entre les lignes. Très bonne journée.
Merci.
Priorité santé.
Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Comme chaque vendredi, une émission de santé au féminin. Comment lutter contre la sédentarité? Quelle activité physique choisir selon sa condition physique?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en concert à Paris le 26 juin. La reine du dancehall Made in Guinée vous attend pour un show exceptionnel au New Morning. Invitation gratuite à retirer sur le site du New Morning, sur With Event et sur rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur